Les avantages du Fils de Dieu numéro 13. Nous avons la hardiesse de parler de la révélation de Christ. Dimanche 12 septembre 2004. Révérend Brian Kozurek. Foi que nous professons. 1. Le 13e avantage ou la promesse de Dieu que nous avons grâce à son Fils. C'est-à-dire que nous recevons une hardiesse pour parler de cette révélation partout et à tout le monde. 2. Maintenant pour notre texte ce matin, prenons deux écritures qui parlent de cette hardiesse à parler. La première s'estère dans Hébreux 4h14 ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la, Actes 9h20 et aussitôt il prêcha dans les synagogues, que Christ estère le Fils de Dieu. 21 Mais tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas lui qui persécutait ceux qui invoquent ce nom à Jérusalem, et qui était venu ici, avec cette intention pour les emmener liés, aux principaux prêtres. 22 Mes soldats se fortifiaient de plus en plus, et ils décontenançaient les Juifs, qui demeuraient à Damas, prouvant que celui-ci estère vraiment Christ. Version de la Bible autorisée. 3 Vous savez, il y a quelque chose au sujet de cette parole qui vous donne la force, et plus vous en parlez, plus vous devenez fort dans cette parole. Et nous pouvons voir que c'est exactement ce qui s'estère passé avec l'apôtre Paul, pendant qu'il était à Damas. Alors qu'il commençait à leur présenter la révélation de Jésus-Christ, il devenait plus intrépide et plus fort dans sa foi. 4 Et dans le livre des Hébreux au chapitre 4. Nous avons découvert un commandement qui nous dit que nous devons tenir ferme notre profession. Et cette expression tenir ferme fut traduite du mot grec kratéo et signifie s'agripper en utilisant la force ou la puissance. En d'autres termes, s'accrocher fortement. Et à quoi devons-nous nous accrocher fortement? Il l'a dit à une autre profession. Ce qui fut traduit du même mot que confession, et sester le mot grec homologio, qui ester un mot composé utilisant deux mots de racine grecque, homo qui signifie le même et logio ou logo que nous comprenons vouloir dire la parole. 5 Or on peut se poser la question, pourquoi avons-nous besoin de nous agripper fortement à la parole? Bon. Tout d'abord, le mot homologio qui fut traduit par l'expression tenir ferme, ce n'estère pas seulement la parole, mais c'estère la même parole que Jésus a prêchée. Et nous trouverons alors, à notre question, pourquoi devrons-nous nous agripper fortement à cette même parole, notre réponse dans Jean 17. Maintenant, Jean 17 consiste surtout à la prière que Jésus a faite à son Père juste avant de devoir partir pour Gethsémané avec les apôtres. Ils venaient de finir la communion qu'ils ont prise ensemble pendant qu'ils étaient ici sur terre, et ils étaient prêts à partir pour le jardin de Gethsémané où l'Esprit de Dieu devait quitter Jésus. Alors, prenons au verset 1 du chapitre 17. Jean 17, 1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. 6 Remarquez ici que Jésus prie le Père, et il dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Maintenant, nous savons tous de nos études que le mot grec que Jésus a utilisé était doxazo, qui est une forme verbale du nom doxa. Or, le doxa c'est l'opinion, l'évaluation et le jugement de Dieu. Donc, nous voyons ici que Jésus demandait à Dieu de doxazo ou de produire, au moyen de la manifestation, l'opinion, l'évaluation, et le jugement même de Dieu en lui, afin que lui, à son tour, manifeste l'opinion, l'évaluation, et le propre jugement de Dieu au monde. En d'autres termes, Jésus demandait à Dieu de lui donner son opinion, son évaluation, et son jugement, afin qu'il la reflète ou la répète par la manifestation. Père, doxazo-moi afin que je te doxazo. Cette puis il continue dans sa prière, de selon que tu lui, au Fils de Dieu, a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il, le Fils de Dieu, accorde la vie à tous ceux que tu, Dieu, le Père, lui, au Fils de Dieu, a donné. Ainsi, nous voyons ici dans ce verset que Dieu lui-même a donné la capacité à Jésus de donner la vie éternelle à tout ce que Dieu avait donné à son Fils de vivifier à la vie. 8 Maintenant, remarquez alors au verset suivant, Jésus explique ce qu'est cette vie éternelle et ce qu'elle fera. 3 Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 9 Maintenant, c'est une déclaration très puissante à la lumière de la doctrine de Christ. Il a dit, la vie éternelle, c'est de connaître celui qu'il priait, qui était le Père, qu'il est le seul vrai Dieu, et de connaître aussi Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu manifester le Père, celui que le Père a envoyé. 10 Maintenant, souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avons étudié ce que ce même auteur Jean a dit à ce même sujet, lorsqu'il a dit dans son épître dans 1 Jean 5:20 « Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et nous a donné une compréhension afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en lui qui est vrai, de même ou de la même manière que nous sommes en son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le vrai et l'unique Dieu, et la seule source de la vie éternelle. 11 Donc nous voyons ici que Jésus-Christ dans sa prière à son Père, qu'entendait les apôtres, leur faisait savoir que la vie éternelle est manifestée en connaissant le Père et en connaissant le Fils qui fut envoyé par le Père. Par conséquent, si quelqu'un n'aime qu'en n'est pas le Père et n'aime qu'en n'est pas le Fils, et essaie de dire que Jésus est son propre Père, alors comment peuvent-ils avoir la vie éternelle? Je pose cette question en me basant sur ce que Jésus nous dit ici. Il dit que la vie éternelle, c'est de connaître le Père et de connaître le Fils. Et donc, qu'en serait-il si vous n'aimez, connaissez pas le Père et si vous n'aimez, connaissez pas le Fils? Alors, avez-vous la vie éternelle? Si c'est ce que Jésus nous dit que c'est 12 Vous voyez, tout le monde est disposé à parler de l'évidence de la nouvelle naissance, et vous n'aimez pouvez pas naître de nouveau avant que la vie de Dieu n'aimez vienne en vous. Vous vivifiant par sa vie et à sa vie, qui est la seule forme de vie éternelle. Et ils disent que croire le message de l'heure, c'est l'évidence que vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu la vie éternelle. Puis ils vous diront que le message de l'heure, c'est que Dieu a envoyé un prophète. Or, comment Jésus pouvait-il nous dire que l'évidence, c'est de connaître le Père, et le connaître lui, et frère Branham nous dire quelque chose de différent? Mais le fait est que frère Branham Néhémie nous a pas dit quelque chose de différent. Il a dit en fait, mon ministère c'est de le déclarer, lui, qu'il est ici. Et le mot déclarer signifie, 1. Faire connaître formellement ou officiellement. 2. Révéler ou rendre manifeste. Montrer. 13. Alors, nous pouvons voir que ce que frère Branham a dit, c'est exactement ce que Jésus a dit. Parce que si son ministère était de le déclarer, lui, qu'il est ici et que le mot déclarer signifie faire connaître, alors, cela signifie que son ministère est de vous aider à connaître celui qui est ici, Dieu lui-même, et en le connaissant, vous connaîtrez aussi son Fils qu'il a envoyé. Et c'est ce qu'est la vie éternelle. 14 Alors, le fait d'être capable d'en parler n'est pas la vie éternelle, et être capable de mémoriser les citations ou même des sermons entiers n'est pas la vie éternelle, ni de vivre une bonne vie. Mais la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître son Fils. Ainsi, vous voyez pourquoi la doctrine de Christ est si importante pour nous? Car sans elle, vous n'y pouvez pas naître de nouveau à la vie éternelle. 15 Maintenant, regardez, le même apôtre Jean qui a écrit cette prière de Jésus dans l'évangile de Jean, a aussi écrit ces mots dans sa deuxième épître. 2 Jean 1, 8 Prenez garde à vous, afin que nous n'y perdions pas les choses pour lesquelles nous avons œuvré, travaillé, mais que nous recevions une pleine récompense. 9 Quiconque transgresse, cela signifie aller au-delà des limites et n'y demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu et dans nos premières études, nous avons découvert que ceux qui n'y restent pas dans la doctrine de Christ, n'y peuvent pas faire l'écho de Dieu ou répéter Dieu, ils n'y peuvent pas le refléter, d'aucune manière. Mais, celui qui demeure dans la doctrine de Christ, et cela signifie que celui qui reste dans la doctrine de Christ, il fait l'écho, il répète les deux, le Père et le Fils. 10 Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine de Christ qui enseigne qu'il y a un Père et un Fils. N'aimez le recevez pas dans votre maison, et n'aimez le saluez pas de la part de Dieu. Maintenant ça c'est une chose très dure que tu dis Jean. Alors, pourquoi l'a-t-il dit? Jean nous le dit au verset suivant. 11 Car celui qui le salue de la part de Dieu, participe à ses mauvaises œuvres. Version de la Bible autorisée, remarquez ici qu'il vous fait savoir que quiconque n'a pas cette doctrine de Christ, doit alors avoir une fausse doctrine de Christ, et ainsi, ce qu'ils font ne venait pas de Dieu, mais d'une autre source, et par conséquent, c'est mal acquis. C'est ainsi, nous voyons que connaître Dieu et connaître son Fils, c'est la vie éternelle, et il n'y a rien à faire. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Et d'autres termes, l'expression le seul vous dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ainsi, c'est de connaître ce seul Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé, qui vous donne la vie éternelle. 17 Ainsi, n'aimé pas connaître Dieu et son Fils montre que la personne manque de la vie éternelle. Parce que si le ministère de William Branham était de déclarer Dieu, qu'il est ici, et déclarer signifie vous faire connaître celui qui est ici, alors, n'aimez pas connaître ceci montre que vous n'aimez connaissez pas son message, et si vous n'aimez connaissez pas son message, alors vous n'avez pas l'évidence dans votre vie de la nouvelle naissance. Parce que juste connaître que Dieu a envoyé un prophète n'aimez suffit pas. Vous devez connaître le message et croire ce message, mais si vous preniez le message et que vous le mettiez de côté et dites que votre message est que Dieu a envoyé un prophète, et que c'est tout ce que vous devez croire, vous vous dupez vous-même à ce qu'est réellement le message, et cela montre que vous n'êtes même pas né de nouveau. Maintenant, poursuivons la prière de Jésus. 18 4 Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai montré au monde ton opinion, ton évaluation et ton jugement. Pendant que j'étais ici sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. 5 Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même. Maintenant Père, transmets-moi cette opinion, cette évaluation et ce jugement qui sont tiens, de la gloire, l'opinion, l'évaluation, et le jugement, que j'avais avec toi, avant que le monde existe. Si j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné venant du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, le mot garder ici vient du mot grec qui veut dire être attentif et assidu. Donc nous voyons que quand Jésus nous dit qu'ils ont gardé la parole de Dieu, cela signifie qu'ils y ont fait très attention et ont été très attentifs. Ils ont été très attentifs à la parole de Dieu et ils savent qu'elle a été donnée à Jésus par Dieu lui-même. Car Jésus dit, « C'est maintenant ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. » 19 Maintenant, remarquez au verset 8 « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont su véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Je veux que vous remarquiez ici ce que Jésus dit dans cette prière. Il nous fait savoir qu'il nous a donné la parole que Dieu lui a donnée, « 8 car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Et il nous dit alors que non seulement il nous donne la parole que Dieu lui a donnée, mais nous avons reçu cette parole et ils les ont reçues. Et le mot « reçu » a été traduit du mot grec « lambano » qui signifie « prendre pour soi » dans le but de l'utiliser à notre avantage, comme si cela nous appartenait. Puis Jésus nous fait savoir qu'en recevant la parole que Dieu lui a donnée eux et qu'il nous a transmise, nous parvenons à la compréhension de Dieu, et de comment et de pourquoi il a envoyé son Fils. 8 car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont su véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. 20 maintenant, c'est très important, parce que Jésus en témoigne au Père que la parole qu'il a donnée à son Fils nous fut transmise. Et ce faisant, nous avons reçu cette parole et avons su d'où elle est venue, et ainsi, nous connaissons la différence entre le Père et son Fils. Et ce n'est pas seulement une compréhension mentale dont il parle, mais le mot recevoir signifie la prendre pour vous-même afin que nous puissions l'appliquer à nous-mêmes. En d'autres termes, elle parle d'une parole vivante qui, quand elle est reçue, devient vivante pour nous et en nous. Et nous vivons de la parole même qui nous a été donnée. Car elle nous a été donnée pour notre avantage, et elle devient vivante en nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle, et cela signifie que nous connaîtrons le Père et nous connaîtrons son Fils, et comment Dieu œuvre dans tous ses enfants, vivifiant sa parole même dans chacun de nous. Acte 17h28 car en lui nous vivons, et nous nous mouvons et nous sommes, comme certains aussi de vos poètes ont dit, car nous sommes aussi sa progéniture. Éphésiens 3h19 est de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Vint maintenant à celui qui est capable de faire, ce n'est pas vous et moi qui faisons, mais à celui qui est capable de faire abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Ainsi, ce n'est pas nous qui faisons, mais Christ qui œuvre en vous. Et Paul dit, 21 à lui soit gloire dans l'Église, par Christ Jésus, à travers tous les âges, monde sans fin. Amen. 21 maintenant, rappelez-vous, la semaine dernière nous vous avons montré que le vrai don de Dieu, c'est de vous enlever du chemin. Alors, l'homme n'a rien à voir avec cela. Alors, ce n'est pas que frère Branham était un puissant prophète ou frère Vélester un profond enseignant, ou frère Brian a fait l'œuvre d'un apôtre, ça c'est tout un tas d'absurdités. Nous devrions plutôt dire que c'est Dieu ceci, et Dieu cela, et Dieu a fait ceci, et Dieu a fait cela, car par un seul esprit nous sommes baptisés dans un seul corps. C'est Dieu qui fait ce qui doit être fait. Et frère Branham était assez franc lorsqu'il a dit que Dieu a autant besoin de moi que le trou qui reste quand vous introduisez votre doigt dans un seau d'eau. 22 Remarquez ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 12. 4 Or il y a diversité de dons, mais le même esprit c'est lui qui les fait fonctionner. Bien que Dieu nous ait donné beaucoup de différents types de dons pour son Église, cependant, il n'y a qu'un seul esprit qui les fait tous fonctionner pour notre bien. Et ensuite, il explique, 5 il y a différence d'administration mais le même Seigneur les effectue. 6 il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui œuvre tout en tous. 7. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour bénéficier à tous. En d'autres termes, Dieu nous donne la manifestation de l'Esprit, son Esprit pour notre avantage. 8. Car à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, à l'autre la parole de connaissance par le même Esprit, 9. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, 10. Un autre d'effectuer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. 11. Mais ce seul et même esprit effectue toutes ces choses, distribuant à chaque homme séparément comme il lui plaît. 23. Alors, il n'y a pas de quoi se vanter. Soit c'est Dieu qui le fait, soit ça n'est mis sera pas fait. Maintenant, en revenant à la prière de Jésus, prenons Jean 17h25. Remarquez comment ce même Esprit de Dieu est revenu sur Jésus et l'a fait parler avec hardiesse de la révélation de Christ. Jean 7h25. Alors quelques-uns de ceux de Jérusalem dirent, n'est-ce pas lui qu'il cherche à tuer? 26. Mais, voici, il parle avec hardiesse, et Néhémie lui dit rien. Esther, ce que les gouvernants savent en effet, que celui-ci Esther le vrai Christ. Jean 18h20 Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs ont toujours l'habitude de s'assembler, et je n'ai rien dit en secret. 24. Et regardez la puissance de l'Esprit sur Pierre et Jean, et comment cette puissance leur a donné la hardiesse de proclamer ouvertement la révélation de Jésus-Christ. Acte 4h13. Lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et réalisant qu'ils étaient des hommes illettrés et sans instruction, ils s'en étonnaient, et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Acte 4:31. Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. 25. Et remarquez que le même effet est revenu sur l'apôtre Paul, lui donnant toute la hardiesse pour parler de la révélation de Jésus-Christ à tous. Acte 9h26. Et quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais ils avaient tout peur de lui, Néhémie croyant pas qu'il était un disciple. 27. Mais Barnabas le prit et le mena aux apôtres, et leur raconta comment il avait vu le Seigneur sur le chemin et qu'il lui avait parlé, et comment il avait prêché avec hardiesse à Damas au nom de Jésus. 28. Et il allait et venait avec eux à Jérusalem. 29. Et il parlait avec hardiesse au nom du Seigneur Jésus, et débattait avec les Grecs. Mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Acte 13h45. Mais quand les Juifs virent les multitudes, ils furent remplis de jalousie, et réfutaient ces choses dont Paul parlait, le contredisant, et le blasphémant. 46. Alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent, il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée d'abord, mais voyant que vous la rejetez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. 47. Car ainsi nous l'a commandé le Seigneur, disant, je t'ai établi pour être une lumière des gentils, afin que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre. 48. Et lorsque les gentils entendirent cela, ils furent heureux et glorifiés à la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. 49. Et la parole du Seigneur se répandait à travers toute la région. Acte 14:1. Il arriva à Iconium, qu'ils, Paul et Barnabas, entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. 2. Mais les Juifs incroyants excitèrent les gentils et firent que leurs mauvaises pensées irritèrent les frères. 3. Cestèrent pourquoi ils, Paul et Barnabas, séjournèrent là assez longtemps, parlant avec hardiesse pour le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et octroyait signes et prodiges par leurs mains. 4. Mais la multitude de la ville était partagée, et les uns étaient pour les Juifs, et les autres pour les apôtres. 26. Actes 19. 6. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent diverses langues, et prophétisèrent. 7. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. 8. Et il alla dans la synagogue. Il y parla avec hardiesse pendant 3 mois, discourant et persuadant sur les choses concernant le royaume de Dieu. 9. Mais, comme quelques-uns s'endurcissaient et Néhémie croyait pas, tandis qu'il disait du mal à qui de ce chemin du Seigneur devant la multitude, il les quitta, et sépara les disciples, discutant tous les jours dans l'école d'un homme Tyrannu. 10. Or cela continua pendant 2 ans, en sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Actes 26, 24. Et comme il parlait ainsi pour sa défense, Festus dit d'une voix forte, « Tu n'essayes plus toi-même, Paul. Beaucoup de connaissances te rend fou. » 25. Mais Paul dit, « Je n'ai mis suis pas fou. » Très excellent Festus, mais je dis des paroles de vérité pleines de gravité. 26. Car le roi connaît ces choses, devant qui je parle librement, car je suis persuadé qu'aucune de ces choses n'est mis lui sont cachées, car ceci n'a pas été fait en secret. 27. Roi Agrippa, crois-tu au prophète? Je sais que tu y crois. 28. Alors Agrippa dit à Paul, tu me persuades presque d'être un chrétien. Actes 28, 30. Et Paul demeura 2 années entières dans une maison qu'il avait louée pour lui, et il recevait tous ceux qui venaient le voir. 31. Prêchant le royaume de Dieu, et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ, avec toute hardiesse aucun homme n'est aimé l'en empêchant. 2 Corinthiens 3:12. Voyant donc que nous avons une telle espérance, nous utilisons une grande clarté de langage. 2 Corinthiens 7, 4. J'ai une grande liberté de parole envers vous. Je me glorifie grandement de vous. Je suis rempli de réconfort. Je suis excessivement joyeux dans toute notre tribulation. 27 Éphésiens 3:11. Selon le dessein éternel qu'il a projeté en Christ Jésus, notre Seigneur, 12. En qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi en lui. Éphésiens 6:19. Et pour moi, que la parole puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, 20. Pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné, qu'en cela je puisse parler hardiment, comme je dois parler. Philippiens 1:19. Car je sais que cela tournera à mon salut par votre prière et par l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. 20. Selon ma sérieuse attente et mon espérance qu'en rien je n'aurai honte, mais qu'avec toute hardiesse, Christ sera maintenant, comme toujours, magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. 21. Paragraphe. Car pour moi vivre c'est taire Christ et mourir est un gain. Colossiens 2:15. Et ayant dépouillé les principautés et les puissances, il les a publiquement exposées, en triomphant d'elles sur celles-ci. Hébreux 3:6. Mais Christ, comme un fils sur sa propre maison, nous sommes sa maison, si nous tenons ferme la confiance et l'allégresse de l'espérance jusqu'à la fin. Hébreux 4:16 et apostrophe Esther. Pourquoi approchons-nous avec hardiesse du trône de grâce? Afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour nous aider en temps de besoin. 28. 1 Thessaloniciens 2:1. Car vous-même, frères, savez que notre arrivée chez vous n'a pas été vaine. 2. Mais, même après que nous ayons souffert d'abord, et ayons été mal acquis traités à Philippe, comme vous le savez, nous avons acquis de la hardiesse en notre Dieu, pour vous parler de l'Évangile de Dieu avec beaucoup d'altercation. 3. Car notre exhortation Néhémie comprenait ni tromperie, ni impureté, ni ruse. 4. Mais comme nous avons été approuvés de Dieu pour nous être vus confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme plaisant aux hommes, mais à Dieu, qui éprouve nos cœurs. Hébreux 10h35 Ne rejetez donc pas au loin votre confiance, qui a une grande récompense. 36 Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir les promesses. 1 Jean 2h28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, quand il apparaîtra, nous puissions avoir confiance et que nous ne soyons pas honteux devant lui à sa venue. 1 Jean 4h17 En ceci notre amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir la hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu'il est terre, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 5h14 Et c'est terre ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Superviseur de la traduction à sonbaudible, amdible@gmail.fr, amadolk@hotmail.com, c'est Grâce Fellowship Tabernacle, juillet 2014. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet à briancocourec@yahoo.com.